Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Protégez-vous, fugue et nouveaux projets. Au programme, canicule, comment rafraîchir votre logement. 21 couples du même sexe se font condamner la Roumanie par la CEDH. Et lauréat-lauréate, concours de récits de voyage 2023, premier prix, un trajet sans histoire, par Rodolphe Lasne. Bonne écoute.
Tiré de la revue Protégez-vous, texte écrit par Florence Dujou, le 23 mai 2023. Canicule. Comment rafraîchir votre logement? Le Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo publie de nouvelles recommandations pour protéger votre habitation de la chaleur. Déjà, la Colombie-Britannique et l'Alberta sont confrontés à des températures inhabituellement élevées. Pourtant, nous ne sommes qu'en mai. Pas de doute, il n'y a pas de temps à perdre pour se préparer aux vagues de chaleur à venir. Si les inondations et les feux de forêt sont les dangers les plus coûteux pour les Canadiens, les chaleurs extrêmes sont de loin les plus meurtrières, souligne Blair Feltmate, président du Centre Intact, dans un communiqué. Selon lui, une canicule pendant une panne d'électricité dans une ville comme Montréal pourrait facilement entraîner la mort de milliers de personnes si on ne se prépare pas dès maintenant à lutter contre la chaleur. Le Centre Intact lance deux nouvelles ressources pour vous aider à limiter la chaleur extrême dans votre logement, que vous habitiez dans une maison ou un condo. Les actions recommandées se basent sur le rapport « Chaleur extrême irréversible », protéger les Canadiens et Canadiennes et les collectivités d'un avenir mortel, publié en 2022. Bon à savoir, elles ne coûtent pas forcément une fortune, comme le montre leur répartition en trois groupes sur les infographies, soit les aménagements gratuits, les travaux à moins de 250 $ et les mises à niveau plus chères. Pas seulement la climatisation. Si la climatisation fait partie de la solution, ce n'est pas la panacée, écrit Johanna Aikem, chargée d'élaborer les lignes directrices. Rafraîchir l'air est primordial dans les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée car les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la chaleur extrême. Toutefois, la climatisation rejette de la chaleur à l'extérieur, ce qui contribue à la formation d'îlots de chaleur, c'est-à-dire des zones urbaines où les températures sont plus élevées que dans les zones naturelles environnantes. De plus, la climatisation nécessite une consommation d'énergie accrue. On ne veut pas utiliser trop d'électricité, d'autant que la demande augmente pendant les chaleurs extrêmes, à tel point qu'il y a des risques de panne, souligne Johanna Aikem. Place au refroidissement passif. L'idéal est donc de se tourner vers des moyens de refroidissement passif qui, contrairement à la climatisation, ne consomment pas d'énergie. De simples améliorations comme l'installation de stores, de rideaux ou de pellicules par soleil sur les fenêtres contribuent à empêcher la chaleur d'entrer chez vous. L'amélioration de l'isolation et de l'étanchéité à l'air, par exemple, avec l'installation de coupes froid, permet non seulement de tempérer votre logement, mais aussi de diminuer les coûts énergétiques. Vous disposez d'un budget de plus de 250 $? Considérez la mise en place de dispositifs d'ombrage extérieur, par exemple de volets ou des auvents, très courants dans les pays du Sud. Autre mesure intéressante, l'installation d'un toit ou d'un mur blanc qui reflète plus le rayonnement solaire et absorbe moins la chaleur que des matériaux foncés comme les bardeaux d'asphalte ou le goudron. Vive les infrastructures vertes. Vous pouvez tirer parti de la nature pour rafraîchir votre intérieur, notamment en vous servant des arbres pour faire de l'ombre et en maximisant le couvert végétal des jardins et des balcons. Si vous habitez à Montréal ou dans l'une des municipalités participantes, le programme « Un arbre pour mon quartier » de la Société de verdissement du Montréal métropolitain Sauverdi vous propose de planter au moins un arbre sur votre terrain pour une fraction du prix. Pour des mises à niveau à plus de 250 $, considérez le remplacement des zones pavées de votre stationnement, de votre jardin ou de votre terrasse en zones végétalisées. Celles-ci absorbent moins de chaleur et plus d'eau que les zones artificielles. Elles contribuent ainsi à abaisser la température autour de votre résidence. Et les actions gratuites? Les nouvelles lignes directrices communiquées par le Centre Intact rappellent que vous pouvez agir, même si vous êtes à court de budget. Favorisez la circulation de l'air pour réduire la chaleur, surtout de nuit, lorsque la température est plus fraîche. Provoquez des courants d'air en ouvrant les portes ou les fenêtres de murs opposés. Dans une maison, vous pouvez aussi créer une ventilation à tirage naturel en laissant entrer l'air frais à la base et sortir l'air chaud par une ouverture au sommet. Réduisez au maximum l'utilisation d'appareils électriques pour éviter de réchauffer votre intérieur et de gaspiller de l'énergie. Vous pourriez par exemple choisir de consommer des repas froids ou encore de laisser sécher la vaisselle et le linge à l'air libre. Arrangez temporairement vos espaces de vie dans les pièces plus fraîches, par exemple au sous-sol, si la taille de votre logement et le nombre d'habitants le permettent. Cette mesure peut réduire significativement les impacts de la canicule sur le sommeil et la fatigue. C'était Canicule, comment rafraîchir votre logement, texte écrit par Florence Dujoux, 23 mai 2023, tiré de la revue Protégez-vous.
« 21 couples de même sexe font condamner la Roumanie par la CEDH », un texte de l'équipe de rédaction paru le 24 mai 2023 dans le magazine Fugue. La Roumanie, où l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'au début des années 2000, n'autorise toujours ni le mariage ni l'union civile entre personnes de même sexe. Des couples de même sexe ont fait condamner leur pays, la Roumanie, par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui a estimé mardi le 23 mai qu'en refusant de reconnaître légalement leur union, le pays violait leurs droits. Dans son arrêt, la Cour basée à Strasbourg a dit, par 5-2, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. La Roumanie, où l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'au début des années 2000, n'autorise toujours ni le mariage ni l'union civile entre personnes de même sexe. 21 couples de même sexe avaient introduit des requêtes devant la CEDH en 2019 et 2020. Ils expliquaient qu'ils n'avaient pas pu accéder à de nombreux droits reconnus par la loi aux couples mariés. Aucun des arguments avancés par le gouvernement pour justifier la restriction des unions légales au seul mariage hétérosexuel ne peut l'emporter sur l'intérêt des requérants à voir leur relation reconnue, a indiqué la Cour. Elle a aussi souligné que permettre la reconnaissance des unions homosexuelles ne porterait pas atteinte à l'institution du mariage puisque les couples hétérosexuels peuvent toujours se marier. Le bras judiciaire du Conseil de l'Europe a rappelé que les États membres sont tenus de fournir un cadre juridique permettant une reconnaissance et une protection adéquate de la relation qui unit les couples homosexuels et bénéficie d'une certaine latitude d'appréciation quant à la forme de la reconnaissance et au type de la protection accordée. C'était 21 couples de même sexe font condamner la Roumanie par la CEDH. Un texte de l'équipe de rédaction paru le 24 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Lauréat lauréate, concours de récits de voyage 2023. Premier prix, un trajet sans histoire par Rodolphe Lannes. Un texte présenté par l'équipe de rédaction, paru dans l'édition Printemps-été 2023 de la revue Nouveau Projet. Tanzanie, Espagne, Italie. C'est vers ces pays que nous transportent les gagnants-gagnantes de notre concours de récits de voyage 2023. En traversant le nord de la Tanzanie à bord d'un bus, un voyageur observe le mélange de modernité et de tradition qui caractérise cette société. Nous vous présentons ici le texte gagnant de notre concours de récits de voyage 2023. Considéré dans ce texte. Une rencontre. Les paroles d'une chanson de Diamond Platnumz. L'argent de l'extractivisme. Les sorcières dont on ne parle plus. L'omniprésence de la religion. Les hôtels 5 étoiles et les bidonvilles. Arusha avant l'aube. Je suis assis dans un bus de luxe au moteur rugissant, vrombissant en cadence avec des dizaines d'autres véhicules serrés, gueulants, fumant et klaxonnant, avançant par à-coups, pare-choc contre pare-choc, une course au ralenti vers la sortie du stationnement à travers la foule des porteurs, vendeurs, rabatteurs, mendiants et passagers en retard. Le chaos habituel d'une gare routière dans une ville d'Afrique de l'Est. Destination Mwanza, 14 heures de route. Mon voisin de siège s'appelle Isaac et il n'a pas plus envie de dormir que moi. Pantalon noir, chemise grise et limée, bien repassée, cheveux courts, il étudie en tourisme à Moshi, une petite ville au pied du Kilimandjaro. Je lui propose un café, qu'il déguste du bout des lèvres, chaque gorgée comme un silence entre ses phrases. Sa famille vit dans un village près de Mwanza, sur le bord du lac Victoria. Des parents agriculteurs, 12 vaches, un troupeau de chèvres, de quoi nourrir 5 enfants. Isaac est le plus jeune, le seul garçon. Il vient de fêter ses 22 ans et veut devenir guide de safari. Il m'invite à partager son ougali, une pâte consistante qu'il confectionne chaque jour avec de la farine de maïs brute, le féculent de base du pays, et qu'il accompagne de sauce tomate et de petits poissons séchés, suivant la tradition de Mwanza. L'ougali rend fort. L'ougali est bon pour la santé, affirme-t-il, comme pour m'encourager, des étincelles de fierté dans les yeux. Par la fenêtre panoramique, les phares percent la nuit d'instantané. Façade de béton aux couleurs défraîchies, cargaison de tomates, d'oranges, de bananes, déchargées sur les étals du marché Quilombero, station d'essence, jacaranda en fleurs, villa entourée de pelouses à l'approche de l'aéroport d'Arusha. Puis, à la seconde où surgit le soleil, le désert. Isaac me raconte qu'il habite un deux pièces avec d'autres étudiants dans le sud de Moshi, près des rizières. Trois de ses sœurs vivent à Mwanza, mais l'aînée, qui a fait des études, est restée à Arusha après avoir été virée de l'école quand elle est tombée enceinte. Ça fait 3 ans qu'Isaac n'est pas rentré chez lui. La dernière fois, le trajet a pris 2 jours. Aujourd'hui, la route est bitumée, l'air du bus est climatisé et la musique, crachée par la télé, est plus forte que le bruit du moteur. À l'écran, Diamond Platnumz chante en Kiswahili. « Oh, Izo Nizama Zakale, oh, Sangulo na Pepe Kale, Zilipendwa, Zilipendwa. » Zilipendwa, ceux qui étaient aimés, traduit Isaac, tout en balayant l'air d'un revers de la main pour préciser que cela signifie « ça fait partie du passé ». L'époque ancienne, Zilipendwa. L'amour sincère, Zilipendwa. Idi Amin Dada, Zilipendwa. Des brochettes de poissons frits cachent la télévision. Des marchands ambulants se faufilent entre les sièges et les tabourets en plastique de l'allée centrale où s'entassent les voyageurs excédentaires. Une femme, un seau en équilibre sur la tête, propose du manioc bouilli. Un trentenaire, en costume croisé, vante les bienfaits de ses médicaments, des billets de banque soigneusement pliés entre les doigts. Je repense au récit que fait l'auteur Paul Théroux de son passage à Mwanza en 2001 dans Dark Star Safari. À peine débarqué de sa traversée du lac Victoria à bord d'un rafio rouillé, il s'est rué dans un taxi en direction de la gare, puis a sauté dans un train vers Dar es Salaam. Devant la pauvreté des lieux, il n'a eu qu'une envie, quitter cette ville triste à mourir au plus vite. Juste le temps de noter l'état de la rue principale avec la chaussée défoncée, les bâtiments en ruine, les magasins vides, la population en guenille, les enfants jouant au soccer avec une boule de tissu scotché. Isaac éclate de rire. « En ruine? Mwanza? Zilipendwa! » Depuis l'exploitation industrielle des mines d'or de la région, la ville est constellée d'immeubles étincelants, des grues crèvent le ciel, le plus gros centre commercial du pays y a ouvert ses portes, des Mercedes roulent de banque en hôtel 5 étoiles, dans des avenues lisses comme des tables de billard, et l'aéroport accueille des vols internationaux. C'est maintenant la deuxième plus grande ville du pays. Vous écoutez Lauréat Lauréate, concours de récits de voyage 2003, premier prix, Un trajet sans histoire, par Rodolphe Lannes. Un texte présenté par l'équipe de rédaction, paru dans l'édition printemps-été 2023 de la revue Nouveau projet. Le bus roule au ralenti, pris dans un long bouchon de circulation en plein milieu de la vallée du Grand Rift. La plaine à perte de vue, le cratère du Ngorongoro à l'horizon, le soleil au zénith. Au milieu d'un tourbillon de poussière rouge, une vingtaine de vaches maigres, un Maasai appuyé sur un grand bâton, jeune homme filiforme, de l'âge des Layok, les gardiens de troupeaux, enroulés dans un chouka bleu quadrillé, un téléphone intelligent collé à l'oreille. Des femmes assises sur le bas-côté de la route, cheveux, bouche et nez couverts d'un voile coloré, travaillent à la réfection de la chaussée. À coups de marteau, elles transforment des pierres en cailloux, les cailloux en gravillons. Il y a beaucoup de sorcières à Mwanza. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle, me confie Isaac avec un sourire en coin. Certaines peuvent te rendre invisible. D'autres peuvent te faire voyager instantanément d'un lieu à un autre en prononçant une simple incantation. Un homme d'affaires a même tenté de mettre en place une compagnie aérienne offrant le service pour les personnes pressées et argentées. Mais le gouvernement a refusé son appui au projet, n'ayant pas envie de faire passer la Tanzanie pour un pays arriéré, alors qu'il regarde résolument vers l'avant. Zilipendwa, la sorcellerie. Depuis l'exploitation industrielle des mines d'or de la région, la ville est constellée d'immeubles étincelants. Isaac me dit qu'il pense rejoindre les Témoins de Jéhovah. Il n'est pas encore fermement décidé. Ses parents n'approuvent pas son choix. Ils sont pentecôtistes. Mais depuis plusieurs mois, il passe la plupart de ses dimanches à la salle du royaume, séduit par la simplicité des principes, par l'approche qui se contente de suivre littéralement les écrits bibliques. Il aime cette humilité et le fait qu'il ne croit pas à l'enfer. Il apprécie également la tolérance de la communauté, vis-à-vis de la consommation d'alcool. Lui en boit régulièrement. Du Koniaji, le torboyau national, aussi populaire que Coca-Cola sur les panneaux publicitaires. Il me dévoile la petite bouteille en verre qu'il a cachée sous sa chemise, en avale une rasade et me passe le flacon discrètement. Il me raconte à voix basse qu'il s'en enfilait déjà sur le chemin de l'école. À l'époque, il achetait une dose emballée en sachet plastique pour le prix d'un paquet de bonbons. Le gouvernement a sévi. Zili Pendoa, les sacs en plastique, et la vente d'alcool aux mineurs. Pause express au milieu de nulle part. Sur le bas-côté poussiéreux de la route, un barbecue massaï. 3000 shillings la portion de viande grillée, du mouton ou de la chèvre, d'après les carcasses qui gisent derrière les fourrés. Un festin carnivore pour éponger l'alcool, et le bus repart aussitôt. Isaac est bien conscient des implications liées au fait d'être témoin de Jéhovah. Même en cas de mort certaine et imminente, il devra refuser toute transfusion sanguine sans hésiter. Il me dit « C'est fort, la foi, tu sais. » « Oui, je sais. » Dans ce pays, j'ai visité un village sans électricité, où les femmes et les filles marchent une heure tous les jours pour collecter de l'eau alourdie de bactéries dans un lac où parfois des hippopotames les attaquent. Mais avant de creuser un puits ou de financer une partie de la ligne électrique, on préfère construire une grande église pour ne plus avoir à faire la messe sous le manguier centenaire. J'ai aussi rencontré un prêtre luthérien qui vivote, tenant à bout de bras une église sans toit, sans mur, quelques bancs branlants, des bâches en plastique et une belle croix en bois devant laquelle on chante divinement tous les dimanches. Soleil sur l'horizon, d'énormes roches arrondies apparaissent dans le paysage. Blocs de granit aux formes extravagantes qui s'embrasent le temps d'une allumette. L'instant d'après, le rideau noir de la nuit. On approche de Mwanza. Isaac reconnaît le coin. Il nomme des lieux invisibles dans l'obscurité. Il sonne nostalgique, mais n'a aucune envie de revenir vivre dans la région. Malgré les salaires élevés, Zili Pendoa, la mine. Et la pêche, ce n'est pas fait pour lui. Il me parle d'une petite île à 4 heures de bateau de Mwanza, Liegoba, à peine 1 kilomètre carré, où des milliers d'hommes et quelques femmes campent pour pêcher des tonnes de perches du Nil. Une communauté éphémère qui vit des mois durant dans un bidonville parfaitement organisé où tout est hors de prix, avec ses rues, son église, ses chambres crasseuses, ses toilettes publiques infectes, ses magasins, ses bars en plein air, où les hommes boivent fort et dansent le soir avec des filles pour 10 000 shillings, l'équivalent d'un salaire journalier moyen ailleurs au pays, claqué le temps d'une chanson. À Liegoba, ils en gagnent 10 fois plus chaque jour. J'imagine un coupe-gorge. Isaac me regarde, étonné d'une telle pensée. Non, les bagarres sont rares, et l'argent peut bien y couler à flot. Lui, il est terrien. Il y a beaucoup de sorcières à Mwanza. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. La circulation s'intensifie. Isaac est lui-même surpris par les derniers développements apparus en seulement 3 ans. Thérou en serait malade. Mais finalement, certaines choses n'ont pas changé. Sous les lampadaires brûlent toujours les braseros des vendeurs de maïs. Dans un terrain vague, des enfants courent après une balle de chiffon. Des mototaxis pétaradantes nous escortent. La gare est proche et tout le monde se lève. Des femmes ajustent sur leur dos leur bébé enroulé dans un tissu. Des ballots passent de main en main à la hauteur du plafond dans une chorégraphie calme et efficace. Isaac ne voyage qu'avec un petit sac, à moitié rempli de thé et de sucre, un présent pour ses parents. On s'échange nos numéros WhatsApp, une poignée de main, et il s'immisce dans la vague qui sort du bus. Dans la foule sur le quai, il retrouve une de ses sœurs, un bambin sur la hanche. Sourire sans accolade ni effusion. Isaac prend le gamin dans un bras, fait signe à un boda-boda. Ils grimpent tous les trois sur le siège arrière de la moto et disparaissent dans la nuit de Mwanza. Rodolphe Lannes est l'auteur de trois romans publiés aux éditions Le Méac et d'un récit de voyage, « J'habite une île », 2022, qui relate son tour de l'île de Montréal à pied. Il écrit aussi des reportages et des guides de voyage. Il séjournait en Tanzanie dans le cadre d'une mission de soutien au développement touristique durable organisée en collaboration avec le Ceci et Village Monde. C'était lauréat-lauréate, concours de récits de voyage 2023, premier prix, un trajet sans histoire par Rodolphe Lannes. Un texte présenté par l'équipe de rédaction, paru dans l'édition printemps-été 2023 de la revue Nouveau projet.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin, Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.